Chapitre 72. Joel d'Ishak Pacha, Nakhetchevan. La grille s'ouvrit dans un grincement sinistre. Zeytin entra, escorté de trois hommes qui pointèrent leurs kalachnikovs sur les captifs.
« C'est l'heure, » déclara le mercenaire avec détermination. « Par qui commence-t-on »
Zeytin braqua successivement une puissante lampe torche sur chaque prisonnier. Le trait de lumière éclaira tout d'abord Arsène Pareya, puis le visage de Zach, qui ouvrit sa main en visière au-dessus de ses yeux et soutint en sillant le regard du tortionnaire, invisible dans le contre-jour.
« Alors, pas de volontaire ?»
s'amusa Zeytin. Le faisceau lumineux dansa encore dans le cachot pour se fixer sur Cécile. Le rond clair de la torche remonta longuement le long du corps de la chercheuse, tel un projecteur de cabaret impudique sur les courbes d'une danseuse de charme. Une danseuse immobile. Cécile tentait de contrôler les tremblements de chaque pli de sa takshita, les bras serrés contre sa poitrine, masquant maladroitement la naissance de ses seins.
« Champagne ?» gloussa Zeytin à l'intention de ses complices. « Ahmet, Aki, Kerim, que diriez-vous d'une petite gourmandise parisienne ?»
Des rires gras fusèrent dans l'ombre. Les jambes de Cécile ne la portaient plus. Elle allait s'effondrer, proie résignée.
« Moi !»
fit soudain une voix faible. Tous se turent. Un silence de chapelle.
« Moi !»
répéta la voix. La torche de Zeytin éclaira le lit. Parastoukan s'y tenait toujours recroquevillé, incapable du moindre geste. Seules ses lèvres, collées à la toile sale du matelas, bougeaient.
« Tu ne peux pas me refuser cela, Zeytin !»
poursuivit le milliardaire en bavant.
« L'hospitalité azérie est sacrée, non ? C'est à moi, en tant qu'hôte, de passer en premier entre les mains de scalpel.
Pauvre fou, murmura Zeytin.
Il y avait presque de l'affection dans le commentaire du mercenaire. Une forme d'admiration, peut-être. Deux hommes attrapèrent l'infirme, chacun en tirant un bras. Ils le traînèrent sans ménagement hors de la cellule. Parastoukan avait été emmené par les mercenaires depuis plus d'une heure. Zach et Arsène demeuraient assis, immobiles. On entendait au loin des sons étouffés. Impossible de savoir s'il s'agissait des cris de douleur du milliardaire ou du simple produit de leur imagination macabre. Cécile, incapable de rester inactive, sondait mètre après mètre les murs du cachot. Le son régulier de son poing contre les pierres froides résonnait dans la cellule comme l'obsédant balancier d'une horloge.
« C'est inutile, Cécile !»
lâcha Zach en soupirant. « Les cachots sont construits sous terre. Il n'existe aucune issue. » Cécile ne releva pas et continua au même rythme son exploration. Debout sur la pointe des pieds, elle tentait de frapper le plafond voûté. La robe de la chercheuse remontait un peu, dévoilant les muscles de ses jambes tendues par l'effort. Zach, à 2 mètres d'elle, lui jeta un regard désolé. Cécile explosa.
« Vous avez raison, Zach, ne vous gênez pas. Matez, matez, profitez-en !»
Elle reposa la plante des pieds sur le sol, puis d'un geste de rage, arracha la rivière de rubis qui pendait à son cou.
« Quelle folie !»
Les billes rouges s'éparpillèrent aux 4 coins de la cellule. Au bord de la rupture, Cécile faillit fondre en larmes. Elle se contint pourtant et continua d'explorer le mur face à elle.
« Elle bouge !»
s'écria-t-elle soudain. Zach et Arsène la regardèrent, stupéfaits. Cécile venait de dégager une pierre mal scellée, une seule.
« Un trou de souris ?» commenta Arsène. « C'est un début. »«
C'est le mur qui donne sur le cachot voisin. » lâcha laconiquement Zach. « Vous voulez agrandir la surface de notre loft ?» Cécile haussa les épaules. Elle colla son oreille à l'orifice qu'elle venait de dégager. Elle entendait des pleurs. La chercheuse se contorsionna pour tenter de discerner quelque chose par l'ouverture, mais même en se concentrant, elle ne percevait qu'un trou noir.
« Il y a quelqu'un ?»
demanda Cécile de la voix la plus douce qu'elle put prendre. Elle distingua des reniflements, plusieurs, puis une voix grelottante lui répondit. Un chuchotement aigu, à peine audible. Une fillette. Elle prononçait avec lenteur une suite de mots incompréhensibles. « Zach ?» demanda Cécile.
« C'est l'occasion de vous rendre utile. Vous parlez turc ? Alors traduisez. »
ajouta-t-elle sèchement.
« Petite, comment t'appelles-tu ? »
Zach se leva et se pencha lui aussi vers l'orifice. Une voix d'ange leur parvint à travers les ténèbres.
« Aman. »« Continuez !»
ordonna Cécile.
Depuis combien de temps es-tu là ?
Elle est kurde,
intervint calmement Zack.
Comment cela ?
Aman est un prénom kurde, pas turc.
Et vous ne parlez pas kurde ?
Si. Cécile encaissa, impressionnée. N'en laissa rien paraître.
Ok, alors, continuez. Ils t'ont fait du mal ?
Zack traduisait les questions et les réponses. La petite Aman ne s'exprimait que par des phrases très courtes, un mot ou deux. Elle semblait perdue, traumatisée, se méfiant d'un nouveau piège.
« Pourquoi te retiennent-ils prisonnière ?»
insista Cécile.
« Qu'est-ce qu'ils te veulent ?»«
Ils veulent... »
Un frottement sur la pierre fit office de réponse, comme si la fillette tentait de leur faire passer un objet à travers le petit orifice. Cécile tendit la main, sentit d'abord celle d'Aman, chaude, douce, qu'elle caressa longuement, avec une infinie tendresse. Des halètements lui firent comprendre que la fillette devait se tenir dressée sur la pointe des pieds pour atteindre le trou, dans une position sans doute terriblement inconfortable. Cécile lâcha à regret la main et tâtonna. Ses doigts se posèrent sur un objet en bois qu'elle tira jusqu'à elle. Elle étouffa un juron. Elle tenait une petite licorne sculptée.
« Qu'est-ce qu'ils te veulent ? »
reprit-elle troublée. Zack traduisit mot pour mot la réponse d'Aman. Ils veulent que je leur montre les licornes. Une voix hurla dans la tête de Cécile. La chercheuse aurait voulu s'obstruer les tympans. Elle s'était embarquée à bord d'un train fantôme et chaque virage s'ouvrait sur un nouveau délire. Les Néphilim, l'Arche de Noé, le Livre d'Enoch, les anges déchus, les licornes. Dans son cerveau, d'immenses toiles d'araignée remplaçaient ses neurones. Chaque seconde plus dense, plus sombre, nouée à l'infini. Cécile s'était perdue dans un cauchemar. Elle devait se réveiller. Cécile continua de discuter de longues minutes avec Aman par la brique décellée sans rien apprendre de plus, mais tentant de rassurer du mieux qu'elle pouvait la fillette terrorisée.
« Nous sommes là, » murmurait Cécile. « Fais-nous confiance. Nous ne te laisserons pas, Aman. Jamais. »
Des paroles d'espoir prononcées autant pour la fillette que pour elle. Des pas résonnèrent dans le couloir. Elle replaça la brique avant que la grille ne s'ouvre. Deux mercenaires jetèrent sans ménagement Parastoukan sur le lit. Le sang inondait sa chemise blanche à hauteur de l'abdomen.
« Ne te réjouis pas trop vite, Parastou, » siffla Zeytin de l'entrée de la cellule. « Tu souffres, mais tu ne vas pas en crever. Il nous reste du temps, beaucoup de temps. Tu parleras la prochaine fois. »
La grille se referma sur eux. Arsène, Zack et Cécile se précipitèrent vers le milliardaire. Pareya déchira la chemise blanche. Zeytin ne mentait pas. Scalpel avait travaillé en expert. La blessure entaillait la chair flasque de l'infirme sur plusieurs centimètres jusqu'à la paroi abdominale. L'incision chirurgicale devait faire souffrir le martyr à Parastoukan, lui interdisant le moindre mouvement, mais ne présentait aucun danger mortel.
« Reculez-vous !»
murmura le milliardaire d'un souffle à peine audible.
« Reculez-vous tous, à l'exception du professeur Pareya. »
Les trois prisonniers se consultèrent, étonnés.
« Je souhaiterais parler au professeur Pareya, »
insista Parastou.
« En particulier. »
Zack et Cécile s'éloignèrent jusqu'à l'extrémité de la cellule. Arsène Pareya s'agenouilla sur le côté du lit, dans la position d'un confesseur priant auprès d'un mourant. Les deux hommes échangèrent pendant de longues minutes. Arsène finit par se relever, livide. Les mains du professeur tremblaient. Il pivota comme une toupie fatiguée, comme s'il cherchait un objet qui n'existait pas. Ses yeux hagards paraissaient avoir croisé un spectre.
« Aidez-moi » eut-il le courage de demander à Zack.
« À quoi ?»«
À arracher un ressort du lit. »«
Pardon ?»
Pour la première fois de sa vie, Cécile vit son professeur s'énerver. Un coup de tonnerre.
« Arracher un ressort, nom de Dieu ! Zack, vous n'êtes pas sourd !»«
Pour en faire quoi ?»
insista Zack.
« Me curer les dents !»
Devant l'attitude hébétée de Zack, Arsène précisa sans que sa colère retombe.
« Pour fabriquer une arme, imbécile ! Voyez-vous dans cette pièce un autre objet capable de se transformer en arme mortelle ?»
Zack ne bougeait toujours pas, incrédule.
« Vous comptez tuer un de nos gardes avec un ressort rouillé ?»
Le timbre du professeur baissa soudain de plusieurs octaves.
« Qui vous a dit que c'est un garde que je voulais tuer ?